RMC, les experts F1.
Ils sont là, ils sont prêts pour le Grand Prix de Hongrie ce week-end. Louis Amar sur le circuit à côté de Budapest et Jean-Luc Roy, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous.
Bonsoir Virginie, bonsoir Louis, salut à tous.
Alors on va commencer Louis par un petit point météo parce que ça peut avoir son importance. Il fait une chaleur absolument harassante, n'est-ce pas ?
Le mot qui convient c'est étouffant si tu veux. Il fait 34 degrés dans l'air, sauf qu'il n'y a absolument pas de vent. Donc faire 5 pas dehors est déjà une épreuve. Et la température sur la piste était cet après-midi de près de 55 degrés. Autant vous dire que dans les monoplaces on approche des 70.
Jean-Luc, qu'est-ce que ça change ça pour les pilotes? Est-ce qu'ils se fatiguent plus vite? Est-ce que c'est plus difficile pour leur concentration?
Alors oui, pour ce qui concerne les pilotes, effectivement, de toute façon, le fait d'évoluer dans ces conditions-là, de surcroît avec des lourdes combinaisons unifugées, c'est évidemment un exercice très très périlleux, bon, surtout en course, pour les tours d'essai, pour les qualifs, c'est un bref effort à fournir, mais oui, on est dans un environnement qui est extrêmement chaud, c'est vrai que ça peut perturber, puis il y a des détails qui peuvent finir par compter, on transpire énormément sous le casque et sous la cagoule, et les gouttes de sueur viennent tomber dans les yeux des pilotes, évidemment, il n'y a aucun moyen pour les essuyer. Donc oui, ça peut avoir des conséquences.
On va écouter...
Oui, pardon Virginie, juste un mot encore sur la météo, parce que au-delà de la chaleur étouffante, ce qui peut se produire également en Hongrie, et ce qui arrive souvent, ce sont de très violents orages. Il y en a eu un hier, notamment, hier soir, ça a duré 5 minutes, mais c'était tropical. Il a plu à verse, beaucoup de vent, et donc ça aussi, ça peut évidemment influencer la course si jamais il devait y en avoir un dimanche.
Et d'ailleurs, Romain Grosjean, par exemple, le pilote Lotus, redoute un peu la chaleur, on va l'écouter.
C'est l'été, ça sera la canicule sur les casques. On annonce 36 ou 37 degrés pour samedi pour la qualification, un petit peu moins pour dimanche. Mais c'est vrai que ça va être des conditions très difficiles où il faut garder sa lucidité dans des voitures qui sont proches des 70 degrés.
Alors oui, tout le monde la redoute un peu, cette chaleur. Est-ce que ça peut avoir une influence sur la course? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pilotes qui supportent ça mieux que d'autres? Et est-ce que au final, là, ça peut changer quelque chose pour le Grand Prix?
Ça peut, parce que il faut notamment penser aux pilotes qui découvrent ce circuit, ces très hautes températures. Il y a beaucoup de rookies cette année. On pense par exemple aux deux de l'écurie Toro Rosso, Max Verstappen et Carlos Sainz. C'est sûr qu'il faut une sacrée expérience pour gérer cela, parce que ce sont des conditions vraiment extrêmement difficiles.
Je rajouterai un mot, c'est qu'il s'agit d'un chaudron en fait, parce que le circuit est tracé au fond d'une cuvette, qui est donc dans la banlieue de Budapest, et l'air, comme le soulignait Louis, ne parvient pas vraiment dans la cuvette. Donc c'est un véritable chaudron que les pilotes doivent affronter, et c'est vrai, tu le disais, un pilote peut perdre une partie en tout cas de sa lucidité, parce qu'il est confronté à une chaleur extrême.
Et puis bon. Ça veut dire qu'il faut faire très attention au problème de gourde. Alors ça paraît anodin comme ça, mais on se souvient il y a quelques années d'un pilote dont la gourde s'était percée et qui était sorti chancelant, pantelant de sa voiture au bord de tomber dans les pommes parce qu'il n'avait pas pu s'hydrater suffisamment, il avait perdu trop de litres d'eau en course.
Bon alors rassurez-moi, ça va pas tout changer non plus. A priori, les Mercedes restent favorites.
Ça je pense, oui, je pense que les Mercedes n'auront pas trop à souffrir de la chaleur, en tout cas pas davantage que les autres pilotes. Franchement, il n'y a pas de raison, sachant que Mercedes a remporté 8 courses sur 9, que ça ne soit pas le cas ce week-end à nouveau.
Oui, puis on peut rajouter qu'évidemment, après il y a l'exploitation mécanique, or que je sache, les moteurs Mercedes, où qu'ils soient implantés d'ailleurs, n'ont a priori pas du tout souffert de surchauffe, de chaleur, de problèmes de composants électroniques, même si ici ou là on a pu y assister, alors que ça n'est pas le cas de la majorité de leurs rivaux. Et on pense évidemment à Renault, qui est toujours dans la difficulté. Alors même si les Red Bull et les Toro Rosso n'ont pas trop mal fonctionné dans ces débuts d'essais libres, on va voir ce qu'il en est en course. Et puis surtout, la température de fonctionnement des pneumatiques, on sait que c'est une fenêtre étroite. Alors pour le coup, Louis le disait, avec 55-60 degrés sur la piste, la fenêtre de fonctionnement des pneumatiques, c'est de l'ordre de 110 à 115 degrés, mais il ne faut pas aller au-delà non plus.
Alors, pour Nico Rosberg, par exemple, ce circuit présente quelques difficultés. Il n'est jamais monté sur le podium au Grand Prix de Hongrie.
C'est un fait inédit quand même. Nico Rosberg, ça fait quasiment 10 ans qu'il est en Formule 1. Il a commencé en 2006 chez Williams. Et jamais, effectivement, il n'est monté sur un podium ici en Hongrie. Il serait vraiment bien inspiré de le faire ce week-end. Parce qu'après une embellie pour Nico Rosberg, Lewis Hamilton a repris la main il y a 3 semaines à Silverstone avec une belle victoire dans un Grand Prix complètement fou. 17 points d'avance désormais pour Lewis Hamilton au classement des pilotes du championnat du monde. Bien sûr, ça n'est pas une avance irrattrapable. Nico Rosberg peut revenir sur Lewis Hamilton. Mais avant la trêve, il serait bien qu'il marque des points. Et il l'a dit d'ailleurs encore cette semaine, Nico Rosberg, je peux battre Lewis, je suis aussi fort que lui. On n'est pas loin, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
Jean-Luc, est-ce que Nico Rosberg est aussi fort que Lewis Hamilton?
Ça, c'est la bonne question que tu me poses. Écoute, tu veux vraiment mon avis? Eh bien non. Moi, je pense que Lewis Hamilton est le pilote le plus rapide aux commandes d'une Mercedes. En tout cas, ça, c'est une certitude. Il devance toujours un petit peu Nico. Louis vient de le rappeler, mais en termes de pôles, hein, c'est quasiment écrasant, puisque Lewis a signé toutes les pôles à part celle de Nico, et c'était en Espagne. Donc, c'est dire que sa domination est totale. Et on sait que c'est un avantage déterminant, particulièrement ici en Hongrie. C'est dire que si Lewis, il y a de fortes probabilités, signe la pole et qu'il prend un bon départ, le Grand Prix de Hongrie risque d'être très long, notamment pour Nico Rosberg.
Parce qu'il faut préciser, Virginie et Jean-Luc, que ce tracé est un tracé assez comparable à celui de Monaco, par exemple, où il est extrêmement difficile de dépasser. Donc l'essentiel de la course du dimanche se joue quasiment en fait le samedi lors des qualifications, parce que l'ordre établi à l'issue de cette qualif est extrêmement difficile à bouleverser.
Ah oui, donc une fois que c'est fait, plus personne ne doute personne, quoi.
Oui, effectivement, on peut rappeler quelques. Je me souviens d'un Grand Prix auquel j'avais assisté avec Thierry Boutsen, justement, qui tenait derrière lui 6 à 7 pilotes absolument hystériques qui essayaient de l'attaquer dans tous les virages. Eh bien, Thierry Boutsen est parvenu à remporter le Grand Prix en tenant tout le monde derrière. Alors, il y a eu quelques dépassements extrêmement audacieux. Au hasard, je vais citer évidemment Ayrton Senna dans le fameux freinage au bout de la seule ligne droite, la ligne droite de départ, qui plonge dans un droite. Il était parvenu à passer par l'extérieur, ce qui est absolument impossible normalement, mais lui avait réussi.
Alors Mercedes domine outrageusement cette saison, hein, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement s'enrayer ?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. Ce qui pourrait perturber sans doute la marche des Mercedes, eh bien, c'est si le duel à couteau tiré ressurgissait entre ces deux têtes d'affiche finalement. Peut-être que le pire ennemi de Mercedes, c'est Mercedes elle-même, et la bataille entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton qui peut finir par devenir fratricide, parce que Rosberg a un peu le sentiment d'avoir mangé son pain noir la saison passée en n'étant pas champion du monde, alors qu'il a vraiment failli l'être et qu'on a cru longtemps qu'il le serait. Il pense que son tour est arrivé, et en même temps, Lewis Hamilton, lui, a subi quelques fautes stratégique de Mercedes, on pense à celle de Monaco, on pense à celle de la Malaisie notamment, qui lui avait coûté les victoires. Et franchement, cette rivalité peut devenir un problème pour Mercedes, mais c'est clairement le seul grain de sable qui peut venir enrayer cette belle mécanique à mon sens.
Et Jean-Luc, on a déjà vu Lewis Hamilton, disons, ne pas très bien s'entendre avec ses coéquipiers, quels qu'ils soient, hein, parce que c'est pas la première fois que ça se passe pas très bien. Et donc, on se dit, ça va arriver à nouveau, là, forcément, cette saison, si tout va trop bien.
Écoute, ça, c'est toujours la marque des grands champions. C'est dur de dire ça, mais c'est vrai qu'en général, ils ont un ego surdimensionné. Qui dit ego surdimensionné dit nécessité de dominer tout le monde, à commencer par son équipier qui dispose évidemment du même matériel dans la même équipe. Donc c'est évident que ça ne peut pas bien se passer, ils ne partiront pas en vacances ensemble, ça je te le garantis, après le Grand Prix de Hongrie, ça c'est certain. En plus, les personnalités des deux hommes sont quasiment à l'opposé, hein, on le sait bien, ils n'ont pas le même type de distraction. Enfin, on sait que Lewis Hamilton passe, allez, je le dénonce pas, mais passe beaucoup de temps dans les boîtes, en dehors des Grands Prix, évidemment, il a une vie très mondaine, c'est pas du tout le cas de Nico Rosberg. Donc effectivement, quand il se retrouve sur la piste, et pour corroborer ce que disait Louis, eh bien si malheureusement les deux pilotes choisissaient de prendre la même trajectoire au même moment, tu vois ce qui pourrait se passer, ce serait de l'auto-élimination. Et là, comme l'an dernier d'ailleurs, il y a un certain Daniel Ricciardo ou un autre, hein, ou un certain Sébastien Vettel, ça a été le cas, en début de saison, est capable d'être là pour retirer évidemment les fruits de cet affrontement.
Alors justement, Louis, Jean-Luc, qui pourrait se glisser sur le podium là ce week-end en dehors des Mercedes?
Alors on va surveiller évidemment les Ferrari, la Ferrari de Sébastien Vettel, qui part avec un avantage quand même, parce qu'il a souvent mieux réussi depuis le début de la saison que son coéquipier Kimi Raikkonen. Et puis on va surveiller aussi avec beaucoup d'attention les Williams, dont on attend beaucoup. Les deux pilotes Williams, Felipe Massa et Valtteri Bottas, avaient vraiment animé la dernière course à Silverstone. Ils avaient échoué au pied du podium par des petites erreurs stratégiques, des arrêts au mauvais moment, des mauvaises consignes de course sans doute, et ils auront à cœur de se rattraper sur un tracé qui peut leur être favorable. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils disent.
Alors, je souscris évidemment à ce que dit Louis, un tout petit bémol, la grosse pression sur Raikkonen, puisque ce sont les infos qui circulent, et on le sait, il est quand même un petit peu sur la bascule, donc il va falloir qu'il fasse un résultat, et quand on est fébrile, c'est pas la bonne chose. Et puis d'autre part, il a largement été dominé, comme Louis vient de le rappeler, par Vettel, hein. Le total, 135 points pour Vettel, qui est troisième au championnat, et seulement 76 pour Raikkonen, qui est cinquième. Alors, du côté des Williams, c'est vrai qu'habituellement, c'est l'opposant principal, pratiquement, avec Ferrari. Mais elles sont moins bien sur les circuits à fort appui, à gros appui aérodynamique. C'est le cas de Monaco et c'est le cas de la Hongrie. Donc là, quid des Williams, on verra en course.
Alors, à chaque fois, on dit que c'est la dernière chance pour Kimi Raikkonen. Pourquoi là, ce serait vraiment la dernière chance?
Eh ben, c'est simple, Virginie, parce qu'en fait, l'option du contrat de Kimi Raikkonen avec Ferrari court jusqu'au 31 juillet. En clair, d'ici au 31 juillet, Ferrari a le choix de ne pas renouveler le contrat de Kimi Raikkonen, de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire ou de la lever. Donc, au 31 juillet, on saura si Kimi Raikkonen sera toujours un pilote Ferrari pour le championnat du monde de Formule 1 2016. Si jamais Ferrari décidait de ne pas le prolonger, ce qui sincèrement semble plutôt être la tendance aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui circulent pour le remplacer. Les rumeurs racontent que Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg ont été approchés. En fait, celui qui tiendrait vraiment la corde, ça serait Valtteri Bottas, quatrième du championnat du monde de la saison dernière, révélation de la saison dernière, et qui est aujourd'hui justement devant Raikkonen au classement général du championnat du monde. Il est quatrième.
Alors, je vais terminer avec le fait que les pilotes arborent tous un autocollant en hommage à Jules Bianchi. Jean-Luc, tu étais aux obsèques de Jules, ainsi que beaucoup de pilotes qui étaient là aussi. C'est difficile, hein, forcément, pour eux de reprendre le volant, là, derrière.
Cette cérémonie, mardi, à la cathédrale de Nice, était extrêmement émouvante. Pratiquement tous les pilotes de Formule 1 étaient là, et je peux te dire que beaucoup avaient vraiment les yeux rouges et ne masquaient pas leur douleur. Le moment était poignant, était absolument terrible. On a tous communié, on peut le dire, en pensant et en rendant hommage à Jules, à son talent, bien sûr, mais surtout à l'homme qu'il était, à la personnalité extrêmement attachante. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, pour moi, la Formule 1 ne sera plus jamais comme avant, un peu après la disparition d'Ayrton Senna. Vraiment, c'est un vide, c'est un manque terrible. Alors maintenant, the show must go on, c'est-à-dire que ce sont des professionnels, ce sont des pilotes. Le danger, on y pense en dehors, mais on n'y pense jamais dès qu'on a baissé la visière et dès qu'on est aux commandes d'une machine. Donc évidemment, et plusieurs l'ont dit, le plus bel hommage que chacun essaiera de rendre à Jules, eh bien, c'est de faire le meilleur résultat possible et de lui dédier ce résultat. Et je suis certain que c'est ce qui se passera après le Grand Prix.
Merci à tous les deux. Les rendez-vous Formule 1 du week-end sur RMC, c'est bien sûr demain à 14h, les qualifs. Et puis dimanche, 14h également, le Grand Prix. Tout ça en intégralité sur RMC.